Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau.
Cube Radio.
Bon lundi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. On va s'en sortir, je suis optimiste. La vaccination va bon train. Et on a vu les Israéliens là, qui peuvent maintenant sortir sans masque. Bientôt, ça va être nous autres. On va être vaccinés. On va s'en sortir, je suis convaincu. Faut tenir bon et respecter les consignes. Puis ça va être fini bientôt. Je sais pas si vous avez vu ce week-end un texte qui m'a quand même assez choqué dans le Journal de Montréal, sous la plume de Michael Nguyen, journaliste judiciaire, qui parlait d'un ancien fonctionnaire fédéral qui, pendant 2 ans, abusait régulièrement d'une jeune fille de 9 ans. Elle était presque son esclave sexuel. Il s'en servait quand il voulait. Donc, ça, c'était dans les années 70, entre 1974 et 1976. Et finalement, cette jeune fille-là, qui est maintenant une femme, a porté plainte. Et le gars a été condamné à 90 jours de prison à purger les fins de semaine. OK? Vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours. Donc, ça veut dire 30 week-ends. That's it. That's all. Il a abusé sexuellement d'une jeune fille pendant 2 ans. Cette femme-là, maintenant, a dit qu'elle éprouve beaucoup, beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle. Faut la comprendre. Il a scrappé littéralement sa vie. Et donc, 30 fins de semaine. Pourquoi? Parce que la juge a dit oui, mais après ça, là, après avoir fait ces agressions-là, cet homme-là a fait du bénévolat dans des centres de femmes battues. Puis après, on s'en calisse, là. Vraiment, je m'excuse, là. Et alors, elle dit oui, mais quand même. Puis elle a dit, écoutez bien, là, cette juge-là, là, elle a dit oui, mais cet homme-là, ce qu'il a vu dans les centres de femmes battues, ça l'a énormément bouleversé. Et ça a vraiment eu un impact sur sa santé psychologique. Voulez-vous niaiser? Le gars, il a agressé une fillette de 9 ans pendant 2 ans. Voulez-vous niaiser? Avez-vous vu la statue de la justice? La statue de la justice, dans une main, elle a une balance, et dans l'autre, elle a un glaive, elle a une épée. La balance, c'est pour être juste, pour être rigoureux, tout ça. Et l'épée, c'est pour punir. Ça fait aussi partie du système de justice. Je comprends la réhabilitation, je comprends la prévention. C'est correct. Ça fait partie du système de justice de réhabiliter ces gens-là pour que lorsqu'ils vont sortir, ils vont redevenir de bons citoyens. Je le comprends. Mais faut pas oublier la notion de punition. Et la notion de punition, c'est de dire, ben, regarde, je trace une ligne dans le sable, et si tu traverses cette ligne-là, nous autres, on juge que tu as commis un crime grave et tu vas être puni en conséquence. Et l'année dernière, en avril 2020, la Cour suprême s'était prononcée parce qu'il y a une juge ou un juge qui avait donné une sentence bonbon à un agresseur d'enfant, et la Cour suprême s'était prononcée en disant, il faut donner des sentences plus sévères dans le cas des agressions contre les enfants, pour dire haut et fort à quel point les citoyens canadiens jugent que c'est un crime grave, odieux, inacceptable. Il faut être implacable. La Cour suprême a dit ça. 1 an plus tard, on donne 30 fins de semaine à un gars qui a agressé pendant 2 ans régulièrement une jeune fille de 9 ans. Notre système de justice est malade. Malade. Il faut revoir la gravité des peines. Il faut que les peines qui soient données reflètent la gravité du crime. Même chose envers la violence conjugale, que ce soit un homme qui frappe une femme ou une femme qui frappe un homme ou une mère qui frappe ses enfants ou un père qui frappe ses enfants. Il faut donner des sentences sévères. Puis là, vous allez me dire, oui, mais si tu veux battre ta femme, si tu veux battre tes enfants, même s'il y avait la peine de mort, ces gens-là, les fils se touchent, puis ils vont quand même le faire, je m'en fous. Il faut quand même dire que la société canadienne trouve que ces crimes-là sont des crimes graves. Là, c'est rendu, là, ou des fraudeurs, ou des Vincent Lacroix, ou des gens qui... Il n'y a pas de crime contre la personne, ce sont des crimes économiques. où on donne des sentences plus sévères aux gens qui commettent des crimes économiques, des crimes de bandits à cravate, là, plutôt que des gens qui agressent des enfants. Ça n'a pas de maudit bon sens. Sur la liste là, des crimes graves, en haut, tout en haut, c'est agresser sexuellement les enfants. C'est le crime le plus grave que tu peux commettre, OK? Donc, ça devrait être la sentence la plus grave. Hey, oui, mais vous savez, il a fait du bénévolat pour les centres de femmes battues. Puis ce qu'il a vu, ça l'a eu un impact sur sa santé mentale. Tabouère. Puis il semble qu'un juge ou une juge devrait faire preuve de jugement. Tu sais, dans le mot jugement, il y a le mot juge. Et la même chose dans le mot justice, il y a le mot juste. Ça devrait être important. Dans le Devoir, c'est-tu dans le Devoir d'aujourd'hui? Oui, il y a un texte sur Nadia Comaneci. Moi, quand j'étais jeune, les Jeux olympiques de 1976, j'avais 15 ans et Nadia Comaneci, elle était mon idole. Mon idole. Je découpais tout ce qu'il y avait sur Nadia Comaneci. Je pense que j'avais un scrapbook même où je mettais ça là-dedans. Je capotais ça. Et d'ailleurs, plusieurs années plus tard, dans les années 90, j'étais allé comme fin 90, je pense. J'étais allé comme dans un Canadian Tire ou je me souviens plus, un Brou et Martineau, quelque chose comme ça. Et il y avait une table à l'entrée, puis il y avait Nadia Comaneci qui était là, puis qui signait les autographes. Et tout le monde passait, personne ne la reconnaissait. Tout le monde s'en foutait, elle était plus vieille et tout ça. Elle avait changé physiquement, mais moi, j'étais starstruck, comme on dit, Nadia Comaneci. Bref, alors, il y a des documents qui ont été maintenant rendus publics. Hein. Il y a une journaliste qui a fait un livre sur Nadia Comaneci et la façon dont elle était traité de façon absolument dégueulasse par la dictature de Nicolae Ceaușescu. Elle était une Roumaine, donc elle vivait en Roumanie. À l'époque, la Roumanie était sous le joug d'un dictateur complètement capoté, super siphonné. Et il battait régulièrement, pas lui personnellement, mais son équipe, qui s'occupait des gymnastes. C'était très important pour la Roumanie, pour la gloire de la Roumanie, surtout pour la gloire du dictateur, que les athlètes roumains gagnent des médailles d'or. Donc, les athlètes étaient régulièrement insultés, battus régulièrement. À un moment donné, elle avait pris 300 grammes, Nadia Comaneci, elle était battue. Et on l'affamait, et des fois, elle était tellement affamée qu'elle avait de la difficulté à tenir debout. Rappelez-vous à quoi elle ressemblait, Nadia Comaneci, lorsqu'elle était jeune adolescente. Elle ressemblait vraiment à un enfant, quasiment, là. On l'affamait. Et là, tu regardes ça et tu dis, tu sais, quelles étaient les chances à l'époque que nos athlètes puissent compétitionner contre ces athlètes-là? Rappelez-vous les athlètes d'Allemagne de l'Est, les athlètes de Russie, les athlètes de Roumanie, qui étaient eux autres là, comme des machines, qui étaient battus, qui étaient s'ils performaient pas, elles pouvaient retourner dans leur pays et quasiment être envoyées au goulag et tout ça. On sait que les athlètes russes étaient systématiquement dopés. Les athlètes, rappelez-vous, les nageuses est-allemandes qui ressemblaient à des camions. Les trocs, les filles ressemblaient, étaient tellement boostées aux hormones, esprit, là, avec quasiment des moustaches puis des barbes. Là. C'était vraiment fréquent, là. Alors, c'était des machines à la gloire de l'État, à la gloire du gouvernement, à la gloire du dictateur. Donc, c'est certain qu'on ne pouvait pas compétitionner contre ces gens-là. Et elle, lorsque les Jeux olympiques étaient terminés, elle était comme une prisonnière. On l'empêchait de sortir de Roumanie. Bref, grâce à ces informations-là, maintenant qui ont circulé, on peut voir la face sombre de ces régimes. Et tu sais, nous autres, nos athlètes, oui, ils veulent gagner, mais ils ont une vie personnelle, ils ont une vie amoureuse et tout ça. Tandis que ces gens-là sont vraiment comme des esclaves qui sont à la solde du régime, qui sont dopés, qui ne font que ça. S'entraîner pour pouvoir gagner le plus de médailles possible. Ça doit être comme ça avec les athlètes chinois. Pensez-vous que les athlètes chinois, les athlètes chinoises ont la même vie que nos athlètes à nous? Je ne croirais pas. C'est vraiment des esclaves du régime. Donc, à lire aujourd'hui dans Le Devoir sur Nadia Comaneci, page B4. Vous écoutez Martineau.